France Info, France Bleu, partenaire de la plus prestigieuse des courses d'endurance automobile, les 24 heures du Mans, les 22 et 23 juin. Vivez le 90e anniversaire des 24 heures du Mans en direct sur France Info et France Bleu avec des reportages, des chroniques et des rendez-vous inédits. Les 24 heures du Mans, les 22 et 23 juin, renseignements sur radiofrance.fr. Découvrez RF Podcast, la nouvelle appli de Radio France. Retrouvez tous les podcasts de toutes vos radios. France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France Musique, FIP ou Le Move. Abonnez-vous à vos émissions, recevez automatiquement tous les nouveaux épisodes et écoutez-les sur votre mobile, même sans connexion. RF Podcast est disponible sur radiofrance.fr. France Inter, la voix est libre.
15h04 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet là-bas, si j'y suis.
Bonjour à tous. Ah, c'est bon. J'aurais écouté les anciennes émissions. Ugly, on s'arrête de tout faire. On écoute. On sourit. On a des frissons. Des poils qui se dressent. Et puis, c'était l'époque où les copines nous offraient ton agenda érotique. Allez, salut. Gérard, du Maine-et-Loire.
Une belle revanche pour toi, Daniel, que ce prix de la SCAM. Toi qu'on essaie depuis si longtemps de faire taire par tous les moyens. Une reconnaissance qui nous réjouit tous et qui fera taire peut-être un temps les jaloux, les hargneux, les haineux de tous bords. Et dans la foulée, après le beau cadeau que tu nous as offert aujourd'hui avec Ugly et l'île du droit à la caresse, on sait qu'on va retrouver la coulée douce qui a débauché tant d'oreilles. Que du bonheur à partager.
C'est quoi le C de la SCAM ? Société collégiale, peut-être. Collectiviste, ça serait pas mal. Combattante, ça te paierait. La société combattante. Cochonne, ça serait sympa. La société cochonne des auteurs multimédia récompense Daniel Mermet pour l'ensemble de son œuvre. Toujours est-il que recevoir une récompense, c'est très bien. Mais c'est après qu'il faut la justifier. C'est-à-dire qu'il faut que, à l'avenir, tu sois à la hauteur de cette récompense. Donc il faut continuer. Allez, salut Daniel.
18 juin 2013, date anniversaire de la libération, le 44. C'est magnifique. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La France, le monde, peut-être, a trouvé en 2013 son sauveur, son libérateur. C'est Antoine Decaune qui remplacera Michel Denisot au Grand Journal. Alléluia.
Bonjour, c'est nous. La dernière arrestation est celle d'un piano. Oui, le piano qui était joué par David Martello, un pianiste allemand, sur la place Taksim, en solidarité avec les insurgés, a été arrêté et conduit au poste de police. Auparavant, ils ont arrêté les médecins et tous les secouristes qui essayaient de soigner les blessés, qui ont été gazés très sévèrement. Et ils ont arrêté aussi les avocats qui essayaient de porter secours aux insurgés arrêtés. Les avocats se sont révoltés, évidemment. Ils ont organisé une protestation à l'intérieur du palais de justice d'Istanbul. Et la police a attaqué l'intérieur du palais de justice même, en traînant les avocats par terre. Et ils ont gazé un peu partout, dans les hôtels. Même les touristes en ont eu. Ils ont goûté à ce gaz de Tayyip Erdogan.
Mermet le drôdise, on n'en crave que de chier à t'en parler. Pas mal de gens ont un gros problème pour comprendre, comprendre en soi. Peux-tu nous expliquer ? Moi j'ai un petit problème, j'en crave que de chier à t'en parler.
Merci pour ces messages, c'est étonnant. Un dernier message, j'ai entendu « on comprend que chi ». J'adore cette formule d'argot, mon père parlait comme ça, « on comprend que chi », est-ce que tu dis ? Je pense que c'est un auditeur qui souffre peut-être d'un handicap de la voix. Mais c'est évidemment pour nous, c'est étonnant, quoi. Ça prend une dimension formidable à avec la radio. Et c'est à la radio qu'on va rendre hommage aujourd'hui. D'abord, merci pour tous ces messages amicaux, encourageants, qui donnent, si on en avait besoin, on n'en avait pas vraiment besoin, envie de continuer l'aventure, car ce n'est qu'un début. Il faut que ça se sache un peu partout. Alors, il est vrai que j'ai refusé la Légion d'honneur, c'est vrai que j'ai refusé le prix Nobel, mais j'accepte le Grand Prix de la SCAM pour l'ensemble de mon œuvre. Alors c'est une blague cette formule, l'ensemble de mon œuvre, parce que évidemment l'ensemble de mon œuvre, ça se fait ensemble. Nous, on a fait de la radio, c'est vrai, un sport de combat, mais la radio, c'est d'abord un sport d'équipe. Ça se fait pas tout seul. On est tout, voilà, il y a, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes derrière la vide. Moi, je suis tout seul de ce côté-là, mais on a préparé ça, vous le savez bien. Et vous vous en doutez. Et donc, cette récompense, disons, se partage avec tous. Et c'est l'occasion de se faire une petite rétrospective parmi les émissions que nous avons retrouvées dans les mines de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Alors, beaucoup d'émissions ont disparu, et entre nous, c'est pas forcément plus mal pour certaines. D'autres n'ont jamais été conservées, alors parfois c'est un peu dommage. Mais avec nos amis de l'INA, on en a retrouvé quelques-unes. La Coulée douce, Chair de poule, Ugly, vous en avez entendu un extrait hier, enfin une version hier, un chapitre. Et donc aujourd'hui, on a retrouvé une année qui s'appelait « Si par hasard » au Piano Bar. C'était exactement il y a 30 ans, les amis, « Si par hasard » au Piano Bar. Et c'était une émission assez curieuse, où chaque jour, donc pendant un an, c'est-à-dire 220 numéros, j'interrogeais les invités au sujet de mon père, Charlie, un musicien, vagabond, coureur, improbable, dont j'avais perdu la trace. Alors, était-ce une fiction ou une réalité? On ne l'a jamais su, et je ne le dirai absolument jamais. Toujours est-il qu'au cours de cette année, d'Alain Bachung à Dizzy Gillespie, de Renaud à Juliette Gréco, de Roland Topor à GB, l'ami GB, cher ami, de Paco Ibanez à Barbara Hendricks, et même, vous fera entendre peut-être aujourd'hui ou demain, Miles Davis. Oui, oui, la voix de Miles Davis pour cette émission à l'époque. C'est très court, mais c'est très beau, évidemment, c'est bouleversant. Eh bien, toutes et tous sont venus, au cours de cette année-là, raconter leur rencontre avec ce pianiste aventurier. Alors, il y a évidemment ceux qui se vantaient, qui faisaient croire qu'ils l'avaient connu, mais c'était parfois exagéré. Il y a des femmes qui étaient très pudiques sur ce qui s'était passé entre Charlie et elle, d'autres qui s'en vantaient, d'autres qui se sont confiés. C'était un séducteur extraordinaire qui fumait des cigares de la Louisiane et non pas de la Havane, et qui avait un tatouage dans une partie du corps que seul, effectivement, ses médecins et certaines femmes pouvaient connaître. Alors, aujourd'hui, on a retrouvé ceux qui, à l'époque, avaient parlé de Charlie. Georges Moustaki, Manu Dibango, Screaming Jay Hawkins et Claude Pieplu, qui évoque celui qui disait « Je suis comme je fuis ». Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, France Inter, là-bas si j'y suis, les AMG. J'appelle pour une action autour d'une Vélorution bientôt, hein, c'est à réfléchir, pour notre prochain Café Repère de Locmiquélic, jeudi 20, à partir de 20h15, chez Mme Kouniv, comme d'habitude. On va réfléchir sur les transports doux et la mise en place d'une Vélorution. Voilà, c'est le changement, c'est par l'action. Et c'est maintenant. Il y aura une deuxième partie, parce que ça fait un an qu'on existe sur notre Café Repère, là. Et ben, c'est pas toujours très facile, et on se pose la question de l'année prochaine, comment on fait notre repère. On est très intéressé par les AMG du pays de l'Orient pour venir réfléchir avec nous sur comment on veut faire exister ce repère. Donc chez Mme Koudif, jeudi à partir de 20h15, le 20 juin, donc, route de Port-Louis. Merci, à jeudi.
Allô, c'est Raymond à l'appareil. Mon mari est décédé, mais par contre, je voulais vous signaler, c'est de l'hôpital Bretonneau, dans le 18e. Eh bien, là-bas, il y a de la maltraitance. Vous allez au bâtiment des soins palliatifs, au 5e étage, 4e étage, allez-y faire un tour. Envoyez un journaliste, vous verrez des choses assez surprenantes, dans le scandale, dans l'insupportable, vous verrez. Voilà, au revoir.
Je savais pas qu'elle le disait comme ça, la belle lurette sur l'île du droit à la caresse. Je croyais qu'elle le disait avec insolence et défi, et aussi avec évidence. Je suis vivante. Je suis vivante. Je suis vivante. Je suis vivante. J'aime beaucoup la belle lurette.
Il est bientôt 14h09 et France Inter vous emmène à la rencontre d'un drôle de personnage.
Moi, je crois que Charlie aurait pu être divers personnes. C'est pas sûr que c'est un chien. C'est beau.
Papa.
Il aurait pu être...
Papa. Il est où, mon papa?
Il aurait pu...
C'est Daniel Mermet, c'est Gilles Davida, si par hasard, au piano bar, 1983-1984.
Il avait tous les soirs une réflexion désobligeante pour moi. Il se moquait de moi. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce pianiste? On est allé le trouver, pourquoi on le garde? Pourquoi on le jette pas? Bon, ça pouvait passer pour de l'humour, mais au bout de trois soirs, je commençais vraiment à le voir apparaître avec terreur, parce qu'il me cassait la baraque, comme on dit.
Daniel Mermet, bonjour, mais qui vient-on d'entendre, là?
Bah écoute, t'as reconnu la voix de Georges Moustaki, le métèque, le juif errant, qui parle d'un musicien qui devait être un peu juif, d'ailleurs, quelque part, et qui était un musicien errant, et ce musicien-là, c'était mon père.
Eh bah tu tombes bien, Daniel Mermet, parce que... Depuis le temps que je te rencontre dans les escaliers, dans les couloirs de la maison de la radio, tu me parles de Charles, de Charlie, je ne sais plus d'ailleurs quels sont tous ses prénoms, de ton père, je ne l'ai jamais vu.
Eh ben écoute, pour une raison simple, c'est que c'était un... Ce qu'il disait lui-même, je suis comme je suis, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai très peu connu, je l'ai connu dans mon enfance, et puis je l'ai rencontré après, mais assez rarement, et la raison pourquoi il raconte pas sa propre vie, lui-même, ici à ce micro, c'est que je sais pas du tout ce qu'il est devenu, ça fait quelques années qu'on l'a perdu de vue. Alors je vais essayer, de jour en jour, comme ça, de reconstituer cette vie, c'est comme les pièces d'un puzzle, si tu veux, sera les pièces d'un puzzle musical, sera comme un roman musical, mais je te signale tout de suite que quand je parle de mon père, aujourd'hui, mon père est né le 12 septembre 1914, et exactement aujourd'hui, je l'ai pas inventé, il a 69 ans.
Il y a quelqu'un dont mon père parle dans une de ses lettres. Une lettre qu'il a adressée depuis Bruxelles à ma mère, Soigny, à la fin des années 50. Et dans cette lettre, il parle d'un certain Georges. Et ce Georges-là, c'est Georges Moustaki. Alors j'ai voulu savoir si oui ou non, mon père avait connu Georges Moustaki.
Oui, je l'ai connu, il avait encore un de ses pseudonymes. Je l'ai connu en Belgique et il se faisait passer pour Belge. Mais reprenons l'histoire depuis le début. J'avais atterri à Bruxelles, c'était dans les années 50, en 1955 pour être précis. Et je me trouvais dans la dèche, j'avais trouvé un petit engagement de pianiste dans un bar de la petite rue des Bouchers, qui était un peu le quartier de nuit, le quartier où il y avait les clubs de jazz. Et il y a un homme qui s'appelait Louis Lédu, c'est le frère de Claude Lédu, que tout le monde connaît, qui m'avait engagé comme pianiste, donc, ce qui n'était pas du tout ma fonction habituelle. J'étais un pianiste tout à fait de dernière zone, mais enfin, c'était un gagne-pain, c'était une planche de salut tout à fait inespérée. Et pendant quelques semaines, j'ai joué dans cette boîte qui s'appelait La Rose Noire. Et je faisais les beaux soirs de cette boîte. Les gens, finalement, comme ils venaient pour boire, pour flirter, pour parler affaires, n'écoutaient pas trop ce que je faisais, Dieu merci. Et j'étais même une petite vedette du quartier, quoi. Les gens s'étaient habitués à ma présence et j'avais mon petit succès. De temps en temps, je m'arrêtais, je prenais la guitare, je chantais quelques chansons. Dans la salle venaient des copains comme Jacques Brel ou Dario Moreno quand il était de passage, des musiciens de jazz qui étaient des copains aussi. Parmi tout ce beau monde, il y avait un homme assez richement habillé, qui était donc Charles Mermet, je l'ai appris plus tard. Il venait toujours en très joyeuse compagnie, avec de très belles filles. Et il avait tous les soirs une réflexion désobligeante pour moi. Il se moquait de moi. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce pianiste? On est allé le trouver, pourquoi on le garde? Pourquoi on ne le jette pas? Bon, ça pouvait passer pour de l'humour, mais au bout de trois soirs, je commençais vraiment à le voir apparaître avec terreur, parce qu'il me cassait la baraque, comme on dit. Il m'enlevait tout mon petit succès quotidien.
Est-ce que c'était un bel homme?
Ah oui, bel homme, mais à cette époque-là, parce que je l'ai revu quelques fois dans ma vie, nos chemins se sont croisés plusieurs fois. Mais à cette époque-là, il devait être dans une période faste, parce qu'il était beau, puis il était très élégant, qui portait beau avec des involtures. C'était pas l'élégance qu'on passait. Et alors, au bout d'une semaine, je n'y tiens plus. J'ai dit, monsieur, moi j'en ai marre de jouer devant vous. Prenez ma place et faites mieux si vous en êtes capable. Il a dit, oui, bon, on va voir. Il s'est assis au piano, il a joué du Chopin et c'était sublime. Là, je me suis senti vraiment ridicule. Et lui, quand il a vu cette disproportion, quand il a vu la manière dont j'ai pris la chose, il est devenu tout de suite beaucoup plus amical, beaucoup plus tendre et même presque protecteur. Après cette époque-là, il a continué à venir, il ne faisait plus de réflexion. Et si quelqu'un se permettait de faire une réflexion, ce qui était rare, parce que c'est lui qui me défendait.
Salut Georges, demain la suite des aventures de mon père qui était musicien. Salut.
Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges, on les reconnaissait à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang pour devenir quelqu'un. Ils traversaient la vie comme des arlequins. Certains le sont restés, d'autres ont disparu. Certains ont même la Légion d'honneur qui l'eût cru. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas bougé d'un poil. Ils se baladent encore la tête dans les étoiles. Les amis de Georges n'ont pas beaucoup vieilli. Allez voir, on dirait qu'ils auraient rajeuni. Le cheveu est plus long, la guitare toujours là. C'est toujours l'ami Georges qui donne le la. Mais tout comme lui, ils ne savent toujours pas rejoindre le troupeau ou bien marcher au pas. Dans les rues de Paris, sur les routes de province, il m'en dit quelquefois avec des airs de prince, en chantant des chansons du dénommé Brassens.
Et chaque fois que vous
ce sont des souvenirs.
Voilà, et ainsi, chaque jour, au piano bar, les invités se succédaient de Souchon à Vassilieu, de Catherine Sauvage à les grands écrivains du moment, pour Jean-Roger Cossimon, par exemple, qui se succédaient pour évoquer Charlie, mon père. Et je me souviens, c'est vrai que on avait promis il y a quelque temps de rendre hommage à Jean Garetto. Et bien voilà, c'est un hommage à Jean Garetto que cette émission, puisque c'était lui qui à l'époque était le directeur des programmes. Récemment, Jean-Luc Hesse a dit ces gens-là, il parlait de Pierre Caudoux et de Jean Garetto. Il dit c'était des princes, et c'est tout à fait vrai, ces gars-là étaient des princes, et Jean Garetto en était un. Et je me souviens de lui avoir dit, bah, tu vois, je voudrais faire un truc toute l'année, à évoquer mon père qui était musicien. Et Garetto me dit, bon, c'est vrai, ton père était musicien. Et je lui dis, tu connais la phrase de Vian qui disait, cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée d'un bout à l'autre. Il m'a dit, ok, tu fais l'émission. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventée d'un bout à l'autre, c'est tous ceux qui, au cours des jours, se sont succédés. Et puis je rends hommage aussi évidemment à Gilles Davidas qui était le très génial réalisateur de cette série. Voilà un des premiers invités de cette série. Au piano bar, si par hasard au piano bar, Manu Dibango.
France Inter, 14h10. J'ai eu Daniel Mermet au téléphone il y a quelques instants. Daniel Mermet m'a fait part de sa passion, son amour pour Manu Dibango. Et Manu Dibango a montré qu'entre la musique africaine et la musique du Cameroun, entre autres, et les oreilles occidentales, il n'y avait qu'un pas finalement. Un pas de danse. Et Manu Dibango a bien connu Charles Mermet. Au hasard d'un piano bar, qui sait ?
Oui, oui, oui. Bien, l'histoire de Charlie, elle est simple comme les histoires compliquées. Toutes les histoires compliquées sont toujours simples. Charlie, je l'ai rencontré, tout au moins on s'est rencontré quelque part en Afrique, plus exactement au Cameroun, à Douala. Il y a de cela, c'était en 1900 longtemps d'ailleurs. Et Charlie était venu faire un concert, une série de concerts au Cameroun pour des hôtels, une chaîne d'hôtels français qui était installée au Cameroun. Et un jour à Douala, je le rencontre, c'est-à-dire nous rêvions de pouvoir entrer dans ces établissements qui nous étaient naturellement interdits. Alors on regardait par les fenêtres et Charlie était avec un trio. Il jouait de la musique que je connaissais pas. C'est plus tard que j'ai su que c'était la musique de jazz, parce que nous, à cette époque-là, on allait plutôt à l'église et on chantait. Comme moi, j'étais protestant, mes parents m'amenaient naturellement à l'église pour des chorales. Et puis on chantait des trucs dans ce style. Oui, Wande Wemudiye di Namutate Daso. Ça n'avait rien de dansant. Alors on admirait les instruments. Je suis arrivé à Paris dans les années folles, c'est-à-dire les années d'après-guerre. C'était Saint-Germain, c'était le Vieux Colombier, c'était le Bilboquet, c'était les Trois Maillets, c'était les temples du jazz. Et nous étions des rats de cave. On allait écouter les Bill Coleman, les Sidney Bechet, et puis on avait des airs de Armstrong en tête. Et puis un jour, pendant les vacances, nous sommes descendus à Paris dans une cave et j'ai vu une tête que j'avais cru reconnaître. La tête de Charlie m'avait impressionné et quand j'ai vu un pianiste aux Trois Maillets en compagnie d'un quartet avec des musiciens français, j'ai reconnu Charlie. Lui, il ne pouvait pas me reconnaître puisque j'étais insignifiant à l'époque. C'était un amateur de Fats Waller que tout le monde connaît.
Si tu savais, mon vieux Manu, comme je l'ai connu, ce morceau-là. Toute mon enfance, à Ville d'Avray, papa le jouait sur notre vieux piano, droit. Un jour, tiens, écoute-moi, ça je m'en rappellerai. J'avais 8 ans en 1951. Papa qui débarque à la maison avec une bande de musiciens américains. De la bouffe, des bouteilles et des fleurs pour soigner. Il y avait Benny, Tony, Bud, Freddy. Quelle nuit! Et c'est là, à 8 ans, que j'ai vu pour la première fois la femme de ma double vie.
No one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. In misbehaving, saving all my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. In misbehaving, saving all my love for you.
On l'appelait Sassy, la sexy.
Like Jack Horner in a corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for, believe me. I don't stay out late, don't care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
Le lendemain matin, tous ces noirs, vraiment noirs, ronflaient dans le salon au milieu des bouchons. J'étais môme et commence à voir que c'était Benny Green qui roupillait près de son trombone. Qu'il y avait Billy Taylor qui dormait dans sa contrebasse, Freddie Green près de sa guitare et Bud Johnson qui parlait en rêvant à son saxophone. Et le plus élégant, la bouche ouverte, Miles Davis. Tony Scott, qui serrait sa clarinette. Et la belle Nana, Sassy la sexy, elle était allée dormir dans la voiture, une Studebaker champion, enroulée dans sa fourrure. C'était en 1951, moi j'avais 8 ans, elle s'appelait Sarah Vaughan.
In the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
Et puis autour de Charlie, il y avait toute cette ambiance d'après-guerre des militaires américains qui venaient faire des bœufs dans les boîtes et tout ça. Et nous, on faisait les études, et puis naturellement, les samedis, on venait les passer dans les caves. Alors la vie a continué. Moi, je me suis lancé de plus en plus dans la musique. Et puis je suis revenu à Paris quelques temps après, et j'ai eu ma chance en composant un morceau qui s'appelait Sol Makossa. Mamako, mamasa, mako, makosa. Mamako, mamasa, mako, makosa. Mamako, mamasa, mako, makosa. Mamako, mamasa, mako, makosa. Mamako, mamasa, mama, makosa. Soumoigne. Mosoma, mosoma. Koma, 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 koma. Tanga tibo, ongu tanga, ne usama kosa. Quand je suis arrivé à New York, je jouais dans un établissement. Je jouais, on appelait ça l'Apollo à l'époque, où tous les musiciens...
Harlem, l'Apollo
de Harlem. À la 125e rue. Et quelle ne fut pas ma surprise, non pas au premier jour, mais au troisième jour, de voir quelqu'un, après un spectacle, me taper à l'épaule. Ce quelqu'un-là, c'était Charlie, qui lui était devenu célèbre depuis parce qu'il avait fait une musique de film, un film américain qui a eu beaucoup de succès. Et ce film, la musique de ce film l'a lancé en fait aux États-Unis et Charlie était connu.
Harlem nocturne. Cette musique-là, j'oublierai pas. Quand papa a eu son Oscar, il nous téléphone en pleine nuit. Toute l'Amérique joue ma musique. Je vous envoie du fric. Venez me rejoindre en Amérique. Je me voyais déjà Easy Rider en Alabama. Avec le fric, on a juste acheté une batterie, deux casseroles et un tapis neuf pour l'escalier. Et j'ai jamais eu mon scooter. Mais la musique, je la sais par cœur. Harlem Nocturne.
Chacun de nous a eu naturellement un destin différent. La route a continué. Nos routes ont divergé, en fait. Moi, je suis parti jouer avec des salseros, avec les Pacheco et tout ça. Nous avons fait une tournée en Amérique latine. Alors là, c'était évidemment les Maniceros. C'est un manicero un peu revu par le rythme africain. C'est pas tout à fait un manicero style.
Manicero. Manicero. J'ai cherché dans toutes les lettres de papa qu'il a envoyées depuis Puerto Rico. Bien chers tous, tout va bien. Je suis à Puerto Rico. Je donne des grands concerts avec Pacheco, Tito Puente et Rebareto. Et j'ai retrouvé un vieux copain africain, Manu Dibango. Et je vais bientôt avoir assez d'argent pour vous faire tous venir à Puerto Rico. Ouais. Quel baratineur! On a juste gardé la carte postale à cause de la vue sur Puerto Rico.
Charlie était à Puerto Rico avec plein de problèmes, je crois. Il était entré dans une histoire avec, vous savez, d'autres milieux, là, il n'y a pas que des saints. Il était pratiquement au bas de l'échelle, alors que deux ans avant, je l'ai vu resplendissant à New York. Dans ces conditions, on a essayé de se remonter le moral, les uns les autres. Et puis, le concert s'est bien déroulé. Après le concert, nous sommes partis dans un restaurant, là, typiquement portoricain, pour manger les plats épicés. Et Charlie, il y avait un piano, il y a toujours des pianos dans tous les bars. vois. Et Charlie, qui aimait beaucoup Fats, qui était dans cette ambiance-là, m'a joué un morceau aussi qui a marqué le jazz. Et que, bon, ben dans les moments de joie ou de tristesse, on joue toujours Suite Lorraine.
I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I'm with my sweet Lorraine, yes, a paradise that a blue in the summer skies. Just can't wait until your lucky day, when I marry sweet Lorraine. Yes, when the lucky day, when I marry.
Sweet Lorraine, je sais que Manu Dibango a une fille qui s'appelle Georgia. C'est un titre évidemment d'un grand standard, Georgia. Voilà, c'était comme ça tous les jours. Des musiciens, des amis, des artistes se succédaient au micro du piano bar, donc en saison 1983-1984, et évoquaient ce père, ce pianiste, ce clochard céleste et improbable qui était mon père, Charlie. Et on a eu parmi ceux qui sont passés dans ce piano bar, sans doute celui qui mérite le mieux, mais vraiment, le titre de déjanté. Le titre de déjanté, le seul musicien au monde qui a consacré un blues à la constipation. Screaming Jay Hawkins.
Non, c'est pas papa, c'est pas Charlie qui chante comme ça. D'accord, Charles Mermet, mon musicien, mon aventurier de père, a fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais jamais, jamais, il n'a chanté comme ça. Et personne n'a jamais chanté comme ça. Personne n'a jamais chanté comme Screaming Jay Hawkins. Regardez-le. Une lumière verte éclaire à peine un cercueil. Le cercueil s'ouvre. Voilà Jay qui sort dans un nuage de fumée, avec sa cape noire et dorée, avec ses chaînes, ses bagues, ses amulettes, et sa tête de mort au bout d'un serpent. Screaming Jay Hawkins, le Dracula du rock and roll. Boil it down to a pound, get a spoon. Le rocker surréaliste. Take the jaws and the paws off a coon. Take your time, I ain't lying for good cooking. Cause the rest of this mess ain't good looking. Take the fleas from the knees of a demon. Tell your pals the gals will come screaming to the feast with the beast of the mouth house. They make wine from the spine of their bulldogs. They dance and romance for 90 days. I tell you, it's a test for the best of who's stays. Vous l'avez vu dans Les Enfants du Rock avec Gainsbourg. À 54 ans, Screaming Jay Hawkins qui fait son retour. Pour vous, c'est l'ancêtre du rock, le dernier survivant. Pour vous, c'est pas les enfants, c'est les petits-enfants du rock. Pour vous, voilà qui est Screaming Jay Hawkins. Mais pour moi, il est plus que ça, Screaming Jay Hawkins. C'est un copain de papa. C'est un pote à Charlie. Et c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui. On the mountain, on a one-room shack, stood a big-foot woman cooking buzzard backs. Man and woman talking mountain jack. This
Screaming Jay Hawkins, je l'ai rencontré il y a quelques temps. Il est toujours aussi beau avec ses 54 ans et ses pompes bicolores et son beau costard gris tourterelle. Et il a des bagues à tous les doigts et tous les doigts sur le piano. Alors je lui ai demandé, Jay, comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré Charlie?
Oh, Cleveland. Now there was a town.
C'était à Cleveland, dans la ville de Cleveland.
Lots of people hanging around nightclubs at night when the sun goes down.
Les gens cherchaient un club à la tombée de la nuit.
Admission to get in.
Certains n'avaient pas d'autorisation de rentrer.
Could be as much as 75 cents or a dollar to get in.
C'était 75 cents ou un dollar. Mais tu pouvais prendre un verre ou deux ou trois ou cinq.
They had this one guy, Charlie.
Et il y avait ce type Charlie.
I wanted that man's job so bad.
Et je voulais absolument le boulot de ce type. Il avait le meilleur club.
So I said to myself one day, Charlie.
Et je lui dis, Charlie.
Come on by the house, I'm gonna fix you a nice meal.
Viens à la maison, je t'invite. Une bonne bouffe.
A root doctor, a witch doctor. Charlie gets sick, couldn't go to work that night, so I was.
Et Charlie a été malade, infoutu de bosser. Et le type de la boîte m'a dit, hey Jay, on cherche un type pour le piano. Viens jouer. Jusqu'à ce que Charlie revienne. Et je me disais en moi-même, tu parles, Charlie est malade, je crains rien.
He was wrong because. The guy was nice, he was sincere, he was a gentleman, he was polite.
C'était pas sympa de ma part parce que ce type était gentil, poli et tout, c'était un gentleman et tout le monde l'aimait.
So, I'm sorry he got sick. He still don't know.
Je suis désolé qu'il ait été malade. Mais je lui ai jamais raconté cette histoire.
So one night he didn't work.
Et
but I did, and I was happy. And Charlie, I hope he's still my friend.
J'espère qu'il est toujours mon copain.
I put a spell on you. I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you.
Vous êtes à l'écoute de France Inter. Bonjour Daniel Mermet.
Bonjour Dominique.
Je peux vous donner une information essentielle. Je viens de regarder par l'intermédiaire d'un écran de télévision les spectateurs de Roland-Garros. Je n'ai pas cru reconnaître Charlie. Mais après tout, et je parle sérieusement tout d'un coup, peut-être qu'un jour vous allez le découvrir comme ça dans une foule devant un écran de télévision et pourquoi pas.
Mais à ce moment-là, il faut vite m'appeler et vite m'écrire parce que je suis toujours à la recherche de mon papa. Mais enfin, cette recherche, on l'a fait vraiment par le plus long raccourci possible. C'est-à-dire que ça me donne l'occasion aussi de rencontrer des gens. Et tu sais, des gens au piano bar, il en est passé beaucoup. Et il y a eu toutes sortes de gens, vraiment. Je me demande même parfois comment mon père a pu rencontrer des gens aussi différents. Au piano bar, il y a des gens qui... Il y a eu des lugubres, il y a eu des bègues, il y a eu des romantiques, il y a eu des cyniques, il y a eu des nostalgiques, il y a eu des branchés, des cinglés, des nombriliques, pas mal. Mais alors là, celui qui est venu là au piano bar, je dois dire que ça, c'est un cas tout à fait unique. C'est Claude Pieplu. Je sais que vous avez connu mon père, Charlie. Mais on m'a raconté beaucoup de choses là-dessus. Je suis très content de vous rencontrer pour que vous me disiez de quoi il retourne exactement.
Alors, moi, je voudrais bien évoquer justement ce souvenir de votre papa Charlie, parce que je suis votre émission, je suis France Inter en général, je ne suis pas que la vôtre, attention, hein, je suis d'autres émissions, mais la vôtre aussi. Et je sais à quel point vous êtes attaché au souvenir de votre père et vous essayez de revivre avec lui des tas de moments, avec les uns et les autres qui l'ont approché. Et ces gens-là étaient sûrement, c'était très bien de leur part. C'est vrai qu'il faut toujours parler de son papa avec une certaine émotion et un certain respect. Bon, moi, je peux faire ça aussi. Je peux gamberger autour de votre papa que j'ai connu. Et si je fais ça, je serai vraiment un hypocrite terrible. D'autant plus que c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être moi, finalement, qui l'ai vu sous ce
allez-y, jour-là. Allez-y, allez-y, je vous en prie, allez-y. Je suis prêt à tout.
Non, moi, c'est un gars qui me sort par tous les portes, là.
Claude Pieplus, je vous écoute. Je m'accroche à la table. Je suis prêt.
Bon, écoutez, je sais pas, moi, si je vais pouvoir dire tout ça dans le temps qui nous est imparti, parce qu'il y a quand même d'autres émissions qui doivent suivre, et
il y en a d'autres qui attendent.
Il y en a d'autres qui attendent, et je vais pas pouvoir m'étendre autant que je le voudrais. On peut pas demander une dérogation, là, pour faire tout l'après-midi sur le mal que je pense de Charlie, c'est pas possible, ça s'est jamais fait, c'est difficile à faire. Non, mais enfin, je vais tâcher d'être concis. Bon, bah, Charlie, qu'est-ce que les... Moi, j'ai bourlingué aussi, autant que Charlie, hein. Quand on parle de Charlie bourlingueur, Charlie, alors, on dirait qu'il y a que lui qui a pris des bateaux, il y a que lui qui a fréquenté les bouges, il y a que lui qui a été dans les ports. Moi, je m'excuse, là, j'ai l'air de me vanter. C'est ça qui m'embête, d'ailleurs, de parler de Charlie, ça va m'obliger à parler de moi. Et j'ai horreur de ça, j'aurais voulu ne parler que de Charlie en bien. Mais qu'est-ce que vous voulez, je vais être obligé de parler de moi aussi par rapport à Charlie. Charlie, je l'ai connu, j'ai bourlingué autant que lui, j'ai pris des bateaux, j'ai pris des avions. Mon premier baptême de l'air, ça a été Ajaccio-Saïgon, avec 3 escales sur un DC-4 à hélice. Alors écoutez, c'est quand même pas mal. Alors quand j'entends parler des exploits de Charlie, vous savez, moi ça ne peut pas me toucher. C'est ça qui m'agace, parce que... Je l'ai toujours vu sur ma route parce que, bon, il bourlinguait, je bourlinguais, donc c'était inévitable que je rencontre des bourlingueurs. Entre bourlingueurs, on bourlingue. La première fois que je l'ai rencontré, il a été plus ou moins passager clandestin sur un bateau qui s'appelait l'Alcudan. L'Alcudan, je vais vous raconter, c'est toute une épopée qui valent celle de Charlie, croyez-moi. Cherchant ma vie comme jeune comédien... pas accueilli en frappant aux portes, vous savez ce que c'est. Je sais pas vous si ça a été rose pour vous tout de suite, mais pour moi ça l'a pas été tout de suite. On n'est pas accueilli, on n'est pas regardé, on se méfie, on est plein de suspicions vers le jeune qui arrive, plein d'enthousiasme avec toute sa naïveté, toute sa crédulité. Et j'ai été rejeté. J'ai été rejeté et Dieu merci, j'avais en moi des ressources. J'avais en moi des possibilités, j'étais un bourlingueur. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai pris un bateau à Marseille. Vous me direz que c'est pas étonnant de prendre un bateau à Marseille. Un bateau de ligne régulière. Parce que maintenant, on prend des bateaux quand on veut faire une croisière. On a de l'argent, je pourrais très bien le faire maintenant. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je suis autant bourré de pognon que Charlie, hein. Faut pas croire qu'il y a que lui qui a des comptes en banque et des bijoux, des diamants et tout ça. Moi, je l'ai. Seulement, il y a une différence entre nous, c'est que moi, j'en ai autant que lui, seulement moi, on le voit pas. Moi, je suis plus discret, c'est tout. Moi, je les sors pas tout bout de champ, là. Moi, je suis venu avec un petit. Qu'est-ce que c'est, la pierre que j'ai? Un petit grenat, là. 2 petits grenats.
Mmh. Revenons à ce bateau. Vous prenez le bateau
alors,
à Marseille.
Alors, je prends le bateau à Marseille. L'Alcudan, il s'appelle. C'était en 49. C'était l'époque où c'est mes premiers pas. Je dirais pas sur la mer, parce que je suis pas le Christ. Mes premiers pas dans le métier. Et je vais y arriver à mon métier à Charlie. Ne croyez pas que je fais durer le temps là par plaisir. Je prends ce bateau le 10 mai. Et à Djibouti monte un gars. Et on sentait que c'était un gars qui avait l'habitude. Il était un peu connu. Il prenait le bateau comme il aurait pris le tramway. On sentait qu'il était... Une toute petite valise, pas grand-chose. Un vêtement déjà de saison. Enfin, comme on met là-bas sur les bateaux. La chemise blanche, le pantalon blanc. Moi, j'avais acheté ça aussi, bien sûr. Mais j'étais pas habitué. Je me sentais pas tout à fait à l'aise là-dedans. Et lui, son gros cigare, arrive là et... Il commence déjà par éclabousser tout le monde. On était suffisamment déjà éclaboussé par la mousson. Hein. C'était l'époque de la mousson. On avait des grandes vagues qui nous arrivaient. Lui, il arrive, il éclabousse encore plus tout le monde. Alors déjà, ce cigare, c'était vraiment insolite. C'était pas vrai. Ça faisait... Bon, encore ça, le cigare, j'aurais passé là-dessus. Mais Il n'avait rien pour plaire, il n'avait rien pour séduire. Il séduisait, il plaisait. Il y avait dans la troupe des comédiennes. Il y avait pas mal qui n'étaient pas belles. Mais il y en avait une, deux qui étaient magnifiques. Bon, j'avais 23, 4 ans, vous voyez, j'avais plus ou moins acheté mon dévolu. Je dis, on va passer 4 mois à l'île Maurice, je savais pas ce que ça allait être là-bas. Eh ben, il est arrivé à me supplanter, et on se demande, ouais, moi j'étais complètement différent, mais moi je crois que c'est moi qui aurais dû.
La vérité, Claude, c'est que, bon, il vous a soufflé une nana, quoi.
Oh, ben, y a pas qu'à moi, y a pas qu'à moi qui a soufflé des nanas. S'il y avait qu'à moi, je me serais dit, oh, ben oui, après tout, une nana de soufflée par Charlie, je vais souffler la nana d'un autre. Mais c'est qu'il en soufflait à tout le monde et ça m'agaçait parce que je pense pas qu'à moi, donc, je pense à des tas de copains aussi qui en ont souffert, qui en ont bavé à cause de lui. Pire que moi, parce que moi, j'avais quand même mon art.
Depuis que j'ai fait ces émissions à la recherche de mon père et en essayant de reconstituer la vie de mon père, vous le savez, j'ai rencontré beaucoup de monde et des gens prestigieux pour lesquels Charlie a compté, a été quelqu'un d'important. Il les a même parfois révélés à eux-mêmes. Et vous êtes le seul à parler de lui de cette façon. Alors je me pose la question, est-ce que vous n'avez pas raté Charlie ?
Mais moi, je vais vous dire, tout ce que je viens de vous dire, finalement, je tombe exactement dans les mêmes sentiments que mes illustres prédécesseurs. Car tout ce que je dis sur Charlie, il m'a aussi révélé, d'une certaine façon. Il m'a appris la souffrance.
Il vous a guéri.
Il m'a fait souffrir, et à cause de ça, ça m'a servi. Et finalement, par des moyens différents, par des routes différentes, on en arrive à trouver que Charlie, partout où il était, il a apporté quelque chose. Moi, il m'a apporté la souffrance, il m'a apporté... Parce que, est-ce qu'il a apporté tellement aux gens qui l'ont tout de suite compris quand ça va bien, qu'est-ce qu'on s'apporte? Ah, tu vas bien, je vais bien, on va bien, et puis c'est tout, quoi. Alors, quand on se critique, quand on essaye de se provoquer, de s'affronter, des choses en sortent. C'est des affrontements, c'est des étincelles qui en jaillissent. Et moi, les quelques étincelles de génie que j'ai pu avoir et que j'ai encore et que j'aurai encore longtemps, qui sait si Charlie... Ah, alors, bah oui, c'est le paradoxe, c'est la contradiction de la vie. On hait quelqu'un et puis c'est peut-être celui-là qui vous a apporté le plus. Et c'est peut-être ça aussi qui finalement me fait pas regretter d'avoir bavé, craché sur Charlie. Comme un homme politique peut le faire sur un autre, parce que finalement c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on évolue. Et qui dit que même encore maintenant, sans que je le sache, quand je crois voir Charlie en rêve ou quand je le vois vraiment, est-ce que ça provoque pas quelque chose, un espèce de sursaut? Parce qu'on est vite découragé dans...
Vous dites quand vous le voyez vraiment, parce que vous le voyez encore.
Bah, parfois. Je l'ai vu à la fête. Je crois que c'est lui que j'ai vu à la fête de l'humanité à Courlève.
C'était quand ça
c'était l'année dernière. C'était à la dernière.
Mais alors attendez, vous parlez de Charlie qui était à la fête de l'humanité à la Courneuve. Mais vous, Claude Pieplu, qu'est-ce que vous faisiez là? Si c'est pas indiscret.
Je me le demande. C'est-à-dire que vous me le demandez et ça va me le faire demander, oui. Ben, je sais pas, je peux pas vous répondre. J'étais là comme lui sans savoir pourquoi. Mais est-ce que j'y étais vraiment? Est-ce que finalement, c'est pas mon ectoplasme qui a vu l'ectoplasme de Charlie? Est-ce qu'on était là tous les deux?
Oui, c'est peut-être arrivé à deux autres personnes, oui. Qui s'appelaient aussi Pieplu et Charlie.
C'était peut-être pas moi qui étais là, qui ai vu Charlie qui n'était pas là.
Gilles Davidas, Daniel Mermet, demain, la suite du Piano Bar sur France Inter.
Merci à tous, merci aux mannes de Claude Pieplu, de Screaming Jay Hawkins et de Georges Moustaki. Manu Dubango est toujours là, il se porte merveilleusement bien. Merci aussi à Thierry Beccaro, l'un des animateurs de France Inter l'après-midi à cette époque-là, entre 1983 et 1984. Merci aussi à Ramatou Keïta, qui était notre assistante, et merci aussi évidemment à Gilles Davidas. On continuera demain cette rétrospective des
de la radio, j'allais dire de la basse, j'y suis. Non, c'était avant la basse, j'y suis. Pieds plus, il faut vous pencher sur les diablogues hein, avec du billard. Et puis à cette série d'émissions, il faudra qu'on fasse quelque chose un jour avec ça. Une série qui s'appelait Grégoire et Amédée sur la radio. C'était Paris Inter, je crois, à l'époque, ou bien France Inter. Merci à tous, quoi qu'il en soit. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique programme émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. Et puis il y a la page Facebook de là-bas si j'y suis qui attend vos messages. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Pauline Laverdure, Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission assistée de Pierre-Yves Bulteau. Et Léa Minot attend dès à présent vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire du 14e Festival du Bout du Monde, du 2 au 4 août, en presqu'île de Crozon. Retrouvez une programmation haute en couleur avec Joe Cocker, Sandra Nkake, Scapé, Amparo Sanchez, La Rue qui est à nous, The Soul Jazz Orchestra, Jacques Higelin, Manu Dibango, Relema, Gaël Faye, Mélissa Lavaux et de nombreux grands noms découvertes venus des quatre coins du monde pour 3 jours de fête à la pointe de la Bretagne. Retrouvez le Festival du Bout du Monde dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du Festival de Saint-Denis du 29 mai au 28 juin. Radio France accompagne le Festival de Saint-Denis avec la maîtrise et l'orchestre philharmonique de Radio France. Et retrouvez une soirée spéciale autour du Requiem de Forêt sous la direction de Sophie Janin en direct sur France Inter le jeudi 20 juin à partir de 20h. Un événement présenté par Sylvie Chapelle. Renseignements sur franceinter.fr.
On se retrouve demain dans cette rétrospective à 15h sur France Inter. Il est 16h actuellement et je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
En Somalie, pas de bilan définitif de l'attaque d'un complexe des Nations Unies par les insurgés islamistes Shebab. Selon les sources, on parle d'une dizaine ou d'une quinzaine de morts, dont 5 employés de l'ONU. Les assaillants ont été abattus. Le complexe attaqué regroupe des bureaux et des logements pour les employés étrangers de différentes agences de l'ONU dans le centre de la capitale somalienne. Comme un petit remake de la guerre froide, Vladimir Poutine prévient que la Russie ne permettra aucun déséquilibre dans la dissuasion nucléaire. Le président russe s'exprime alors que son homologue américain Barack Obama vient de terminer son discours devant la porte de Brandebourg à Berlin. Le président américain a proposé la réduction d'un tiers des arsenaux nucléaires. Cécile Duflot renonce à Paris. La ministre du Logement annonce dans une interview au Nouvel Observateur qu'elle ne sera pas candidate à la mairie sous l'étiquette écologiste. Cécile Duflot apporte donc son soutien au candidat désigné par les militants verts parisiens, l'adjoint au maire de Paris, Christophe Najdowski. Le squale au tribunal, c'est ce qu'ont décidé 2 juges d'instruction parisiens. Bernard Squarcini, l'ancien patron de la DCRI, est renvoyé pour son rôle dans l'affaire des fadettes du Monde. Il avait fait demander les factures téléphoniques détaillées du reporter du journal Gérard Davé et d'un conseiller du ministère de la Justice, David Sena. Le chef du renseignement intérieur cherchait à connaître la source du quotidien dans l'affaire Bettencourt. Jean-Marie Le Pen définitivement condamné pour ses propos sur l'occupation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ancien chef du FN pour avoir qualifié l'occupation allemande de pas particulièrement inhumaine. Jean-Marie Le Pen avait été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité à 3 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Selon le Figaro, la SNCF retire sa plainte contre un jeune suicidaire. L'homme de 22 ans avait fortement désorganisé le trafic le 12 juin dernier en errant le long des voies ferrées aux abords des Mureaux dans les Yvelines. La compagnie ferroviaire précise qu'elle a tenu compte de la situation de détresse du jeune homme. Braquage fructueux dans un magasin de montres de luxe ce matin à Paris. 2 malfaiteurs ont volé pour 150 000 euros de marchandises dans une boutique Tag Heuer du boulevard Saint-Germain. Le visage découvert, les malfaiteurs ont menacé les employés avec 2 armes de poing. Personne n'a été blessé. La police judiciaire parisienne et saisie de l'affaire. faire. Manuel Valls et Delphine Bateau à la rencontre des habitants de Lourdes. Les ministres de l'Intérieur et de l'Écologie sont venus constater les dégâts provoqués par la crue exceptionnelle du gave de Pau. Pour Delphine Bateau, il y aura des leçons à tirer de ces événements pour les prévisions. La vigilance rouge est toujours de mise autour de la rivière, dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, même si la décrue est amorcée.
Vendredi, Radio France, faites la musique à l'Olympia.
Pendant plus de 24 heures, retrouvez les émissions de France Inter en direct et en public de la mythique salle parisienne.
À partir de 7 heures, matinale spéciale avec Cali, Zazie et Patrice en live.
À 9 heures dans Comme on nous parle, la grande Sophie et Stromae seront les invités de Pascal Clark.
À 10 heures dans Service public, Guillaume Erner recevra les responsables des plus grands festivals musicaux.
À partir de 11 heures, on va tous y passer avec Mathieu Bogart, Alain Chamfort et Soulman en live.
Et à partir de 17 heures,
toute une série de sessions musicales sur la grande scène de l'Olympia.
Avec le grand retour de Franz Ferdinand,
Rover,
Olivia Ruiz pour la première fois avec un big band,
Alex Baupin,
une carte blanche à Christophe accompagné par Édouard Baird, Vincent Lindon et Rachida Brakni,
Pedro Winter and Friends,
Féloche et ses 50 mandolines,
la grande Sophie avec les musiciens de l'orchestre de Radio France
et bien d'autres.
Une soirée exceptionnelle, retransmise sur France Inter jusqu'à 3h du matin.
Radio France vous invite à la 32e édition de la Fête de la Musique en direct et en public de l'Olympia.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Toutes les infos, les programmes sur radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
16h05 sur France Inter et la Fête de la Musique, c'est aussi tous les jours avec vous. Frédéric Lodéon, bonjour.
Merci beaucoup Corinne Audouin, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour et merci d'être avec nous. Le grand Jordi Savall est infatigable, ce fameux joueur de viol au pluriel, de vielle, de rebec, de toutes sortes d'instruments, chef d'orchestre et musicologue et sur tous les fronts. Et il sera demain à la Cité de la Musique à Paris pour la représentation de ce qui est son disque tout récent, son livre-disque, L'Esprit des Balkans. Donc c'est musique venue des Balkans avec une mosaïque des peuples, des cultures, des religions, les diasporas. Et évidemment ce sera très passionnant, il y a des musiciens invités d'Albanie, d'Arménie, de Bosnie, de Bulgarie, de Grèce, d'Israël, de Macédoine, de Roumanie, de Serbie. Grand moment à 20h, donc à la Cité de la Musique, demain à Paris, c'est 221 avenue Jean Jaurès dans le 19e. Mais le livre disque donc est disponible, on n'est pas obligé de se déplacer pour entendre toutes ces musiques venues de là-bas en général. C'est un peu vague, mais enfin c'est une grande fresque sonore que peint Jordi Savall avec l'aide de beaucoup de musiciens amis. Et c'est l'histoire complexe des Balkans depuis leur conquête par les Ottomans. Le point de départ symbolique qu'il a choisi, c'est la chute de Constantinople en 1453. Et puis, tous ces mélanges qui sont très, très passionnants. Voici une pièce fort célèbre. C'est l'Alouette de Bora Dugic, d'après Dinicu. Dinicu, virtuose roumain, et son fils, Grigorias, après, a développé cette pièce qui est devenue absolument indispensable à tous les groupes tziganes. Cette Alouette qui figure en bonne place dans le livre-disque d'Alia Vox, L'Esprit des Balkans. Thank you. L'Alouette, d'après Dinicou, arrangement de Bora Dugic, des musiciens invités par Jordi Savall, pour enregistrer ce disque avec un très beau livre autour, L'Esprit des Balkans, publié